CQFD sur la première.
Des vaccins et des hommes à la une de l'actualité de CQFD ce matin. Des vaccins et des hommes, c'est donc le titre de ce long documentaire d'Arte, diffusé également sur la RTS il y a quelques jours. Depuis sa diffusion, les critiques pleuvent. Alexandra Richard, pour les auditrices et auditeurs qui ne l'auraient pas vu, de quoi parle ce documentaire?
Alors, il se donne pour mission d'apporter de la transparence, d'oser aborder les questions critiques sur les vaccins, avec un regard historique aussi. Il aborde plusieurs questions intéressantes, comme la pertinence de la vaccination de masse. Mais ce qui lui est reproché, c'est de le faire partiellement, parfois tout en suggestion, avec des informations incomplètes, des imprécisions, des interviews d'archives non datées. On verra pourquoi ça pose problème. Une approche qui distille le doute, qui alimente l'opposition vaccinale. Alors, la vaccination ciblée est-elle à l'origine de l'éradication de la variole en Inde, la rougeole, une maladie bénigne chez nous qui questionne la nécessité d'une vaccination obligatoire? Les cas de cancer ont-ils augmenté chez les femmes vaccinées contre le papillomavirus? Autant de points abordés dans ce documentaire qu'on va essayer de décortiquer avec notre invité.
Oui, on va revenir effectivement sur ces différentes questions et essayer d'y voir plus clair avec vous, en l'occurrence Didier Trono. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre en direct ce matin dans l'émission. Vous êtes directeur du laboratoire de virologie de l'EPFL. Alors avant de commencer, puisque on va essayer d'avoir ce mot-clé un peu en arrière-plan, c'est-à-dire ce mot-clé transparence, on va vous demander de déclarer vos liens d'intérêt dans ce domaine des vaccins.
Alors, je n'ai pas de lien avec l'industrie qui est en charge de développer des vaccins. Je ne travaille pas sur le développement de vaccins, même si dans d'autres domaines, j'ai des liens avec des compagnies biotechnologiques qui sont indispensables à la traduction de nos découvertes en clinique.
Très bien. Vous avez donc regardé ce documentaire d'Arte, diffusé, on le disait également, sur la RTS. D'abord, quelle est votre impression globale?
Bon, j'avais un... Après avis défavorable, je l'ai regardé à 7h du matin un dimanche, donc c'était mal parti. Mais néanmoins, je l'ai trouvé assez séduisant dans sa méthodologie, mais séduisant d'une manière qui était, j'allais dire, presque vicieuse. Je l'ai trouvé habile, mais assez rapidement m'est apparu le caractère très fragmentaire des informations qui étaient données. Rien de ce qui était dit était complètement faux, mais néanmoins, ça distillait un doute qui devenait... de plus en plus désagréable au fur et à mesure que j'écoutais ce documentaire. Et j'ai trouvé qu'il mettait en exergue certains aspects en négligeant d'autres, un peu comme si on donnait autant de temps d'écoute sur les transports en commun à la famille dont l'enfant s'est fait écraser par le tram qu'à tous ceux qui en bénéficient tous les matins pour aller au travail.
Alors si on entre dans le vif du sujet, la question de la vaccination de masse, le documentaire se penche notamment sur le cas de la variole en Inde. Je vous propose qu'on écoute un extrait, l'interview de William Fudge, professeur émérite de santé, qui a travaillé sur le terrain à la fin des années 60.
C'est là que le ministre de la Santé de la région du Bihar nous a appelés un vendredi. Il nous a dit « Je vais venir à votre réunion lundi » et je vais annoncer que nous revenons à la vaccination de masse. Je n'ai pas le choix. La pression politique est trop forte. Quand le ministre est arrivé, il y a eu un silence absolu dans la pièce. Personne ne savait quoi dire, et à ma plus grande surprise, un jeune médecin indien, tout maigre, un homme de terrain, s'est levé. Il tremblait face au ministre. Et il a dit... Je ne suis qu'un villageois. Je ne sais pas grand-chose. Mais je sais qu'au village, quand la maison de quelqu'un était en feu, nous accourions tous pour verser de l'eau sur l'incendie. Nous ne courions pas en tous sens, en versant de l'eau partout. Il a dit, la vaccination de masse, c'est comme si on versait de l'eau partout. La surveillance et le confinement, c'est toute l'eau versée sur la maison en feu. Il y a eu un grand silence. Le ministre a regardé le public et a dit « Je vous donne un mois de plus ». Et ça a été le début de la fin de la variole.
Alors on entend ce message, en tout cas sous-jacent, hein, les campagnes de vaccination de masse ont fonctionné dans certains pays mais échoué dans d'autres, les vaccinations ciblées seraient plus efficaces. Didier Trono, quel est votre avis sur ce propos-là ?
Je pense que l'exemple de la variole est à la fois bien et mal choisi. La variole a été éradiquée. C'est une des très rares maladies qu'on peut éradiquer. Le terme éradiquer revient plusieurs fois dans le documentaire, comme s'il y avait une sorte d'exterminateur en chef qui essayait de stériliser le monde dans son ensemble. Alors qu'en fait, que très très rares sont les maladies qu'on peut, infectieuses qu'on peut éradiquer. C'est celles qui ne touchent que l'humain et qui provoquent des infections aiguës dont on guérit. Donc il y en a à peu près trois. C'est la variole, la poliomyélite et potentiellement la rougeole. La variole, c'est une maladie très particulière parce que on voit tout de suite que quelqu'un est contagieux puisqu'il est porteur de pustules qui sont les vecteurs ou dont le contenu est sont les vecteurs de la contagion. Donc effectivement, on peut cibler pour être sûr d'intensifier l'action là où elle est le plus pertinente, mais néanmoins pas en négligeant ce qui serait une vaccination de masse, c'est-à-dire en assurant une couverture générale. C'est comme si vous faites les affonds dans votre grenier, vous allez passer l'aspirateur un peu partout, puis avec un plumeau, vous allez dans les coins où faut insister un peu plus, parce que là, la poussière s'est cachée. Donc l'éradication de la variole a été possible, parce que c'était une maladie spectaculaire, elle se voyait. On pouvait repérer les cas, on pouvait avoir à la fois une action de couverture générale et plus ponctuelle là où il y avait des foyers de la maladie en train de se répandre. Et ça a été un succès. Maintenant, il n'y a pas d'opposition d'une manière générale entre vaccination de masse et action ponctuelle, ni dans le cas de la variole, ni dans le cas d'autres maladies infectieuses qui, elles, sont beaucoup moins visibles et où, en somme, les actions ponctuelles seraient beaucoup, beaucoup plus compliquées. Pour le Covid, par exemple, c'était difficile de savoir qui était infecté, où les gens étaient infectés. Est-ce qu'il fallait vacciner que certains et pas d'autres?
Oui, donc on ne peut pas tirer une conclusion générale en partant de cet exemple de la variole, ce qui est un petit peu...
Non, qui n'est même pas juste en ce sens que... il est faux de dire que c'est l'action ponctuelle qui a éradiqué la variole et pas la vaccination de masse, c'est la combinaison des deux.
Alors, il est aussi question de la grippe dans ce reportage. Il parle de la situation aux États-Unis et il suggère que la vaccination de masse contre la grippe là est abusive, pas suffisamment ciblée de nouveau. Vacciner dès l'âge de 6 mois, ce serait excessif.
Alors, l'argument qui est utilisé par les Américains pour recommander la vaccination chez les petits-enfants, c'est que les petits-enfants sont les vecteurs de la grippe. Et ça, on le sait, c'est vrai là-bas, c'est vrai chez nous. C'est les enfants qui... Alors, corps défendant propage le virus. Et autrement dit, les Américains choisissent de recommander la vaccination aux petits-enfants pour éviter que dans la famille, les personnes plus âgées qui, elles, ont un risque dans leur santé, précisément leurs grands-parents, se fassent infecter par leurs petits-enfants. Alors, on peut dire que c'est une action indirecte, en sens on vaccine les enfants pour protéger les grands-parents, peut-être qu'on ne devrait pas le faire. On peut retourner l'argument en disant, oui, mais si les grands-parents décèdent de la grippe, les petits-enfants dont les deux parents travaillent n'ont plus de grands-parents pour s'occuper d'eux. Donc, finalement, il y a même un bénéfice pour les enfants à le faire. Mais là, c'est une décision qui est effectivement une décision de semi-solidarité, où on protège certaines couches de la population en administrant la vaccination à elles, mais aussi à d'autres.
Oui, mais si on vaccine les grands-parents, a priori, ils devraient être protégés. Donc on n'aurait pas besoin de vacciner en plus les petits-enfants.
Alors si on arrive à atteindre tous les grands-parents, oui.
D'accord.
Même si, cependant, la vaccination chez une personne âgée, en général, a moins de chances de marcher, parce que le système immunitaire, avec l'âge, diminue dans son efficacité. On sait que le vaccin, y compris le vaccin contre la grippe, ne marche pas aussi bien chez une personne âgée que chez une personne plus jeune.
Toujours sur la vaccination systématique, l'exemple du vaccin ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, et cette question posée par la médecin généraliste Geneviève Faraki dans le documentaire « Pourquoi vacciner contre des maladies relativement bénignes ?»
Je me souviens très bien, dans les années 80, l'affiche avec trois petits poupons, trois bébés, c'était au début de la campagne de vaccination sur rougeole, oreillon et rubéole. Et donc le message en bas, c'était pas d'hésitation, vaccination. Mais il faut reconnaître que c'est chez nous en tout cas, c'est pas des maladies redoutables. Elles étaient répandues, j'en ai vu beaucoup dans ma pratique, mais ça a été un premier glissement de vaccination un peu systématisé sur des maladies pour lesquelles le débat pouvait être raisonnablement tenu.
Rougeole, oreillon, rubéole, pas d'hésitation, vaccination. Demandez conseil à votre médecin.
Avant la vaccination contre la rougeole c'était une maladie infantile. L'âge moyen de survie de la rougeole c'était 5 à 6 ans. Maintenant qu'on a vacciné beaucoup de gens, L'âge de survenue apparaît plus tardivement. Lors de l'épidémie de 2010-2011, c'était 16 ans. D'après mes petits calculs, la prochaine épidémie de rougeole, l'âge moyen de survenue, ça serait plutôt 18 ans. Il y a beaucoup plus de complications chez les adultes que chez les enfants. C'est-à-dire que chez les enfants, les complications graves sont extrêmement rares. Alors, il se trouve qu'avant les vaccins, comme tout le monde attrapait la rougeole, il y en avait quand même. Mais malgré tout, ça restait quand même très très rare. Chez les adultes, c'est plus rare du tout. L'une des complications sévères de la rougeole, c'est l'encéphalite. Et des encéphalites graves, c'est-à-dire avec des séquelles définitives.
Voilà, ça c'était l'infectiologue Guillaume Béraud qui dit donc que la vaccination aurait repoussé, décalé l'âge de survenue de la rougeole. Avant, elle touchait les petits, les petits-enfants, puis là aujourd'hui on est plus sur les jeunes adultes. Didier Trono, est-ce que la vaccination de masse systématique risque justement de provoquer de nouveaux cas de rougeole chez l'adulte finalement ?
On a deux situations ici. On a la situation des personnes qui ont été vaccinées et celle de celles qui ne l'ont pas été. Et qu'on le voit quand il y a des épidémies dans certains collèges ou dans certaines communautés, ceux qui tombent malades sont en général ceux qui n'ont pas été vaccinés parce qu'ils sont contaminés et la maladie se répand parmi eux. Alors à l'époque où personne n'était vacciné, la chance de se faire infecter très tôt dans la vie était grande. Tandis que maintenant que plus de gens sont vaccinés, beaucoup de gens sont vaccinés, on peut échapper à l'infection quand bien même on n'est pas vacciné jusqu'à assez tard, jusqu'au moment où on se retrouve dans une communauté où tout d'un coup le virus se met à circuler. Donc il faut pas prendre comme message de ce reportage que je me fais vacciner, donc je vais choper la rougeole grave à 18 ans. Non, c'est que la circulation du virus, la dynamique de circulation du virus est modifiée parce qu'une grande partie de la population est vaccinée. Donc les non-vaccinés courent le risque plus tard.
Geneviève Farraki qu'on entendait, donc la médecin généraliste, disait aussi, mais dans le fond, on vaccine les tout-petits pour ces petites maladies qui sont relativement bénignes. Est-ce qu'on ferait mieux de ne plus vacciner justement ? C'est-à-dire, on fait la maladie quand on est petit, puis c'est bon, là, on est immunisé de manière naturelle.
Bon, je me souviens d'avoir eu la rougeole, c'était pas très grave, mais effectivement, c'était OK. J'ai eu aussi les oreillons. Mon papa les a eu en même temps, il était pas très content pour des raisons qu'on va pas expliquer à l'antenne pour l'instant. Mais le risque est double. Un, il existe un certain pourcentage de complications, même chez l'enfant. Deux, il y a dans notre communauté des gens qui, de par la fragilité de leur système immunitaire, feraient une maladie grave si la rougeole se mettait à circuler à haut débit, peut-être même plus maintenant qu'au moment où on a introduit le vaccin, parce que beaucoup de gens au sein de notre communauté bénéficient de traitements qui diminuent leur immunité, par exemple dans le cas d'une maladie inflammatoire chronique, d'une maladie inflammatoire de l'intestin, d'un cancer. Donc ça, c'est toute une population qui n'est pas accessible à la vaccination, c'est-à-dire chez lesquels le vaccin ne prend pas et qui sont fragiles. Et il y a en sorte une solidarité à faire là. Et puis la rougeole, dans un certain nombre de cas aussi, peut, après un certain nombre d'années, déclencher des maladies neurologiques qu'on comprend pas bien, dans un petit pourcentage de cas, mais néanmoins, c'est pas une maladie complètement inoffensive. La rubéole aussi, qui est évoquée ici, est une infection qui, comme on le sait, si elle survient chez la femme enceinte, peut provoquer des malformations extrêmement graves du fœtus. C'est l'introduction de la vaccination contre la rubéole, qui est finalement plus bénigne que la rougeole, visait essentiellement à éviter ce genre de problème.
Alors, peut-être un nouvel extrait de documentaire. Ici, on parle de la vaccination contre le papillomavirus. Michel Delorgeril, spécialiste en méthodologie d'intervention, évoque une reprise des cas de cancer dans les années 2000 après une baisse dans les années 70. Il cite l'exemple de la Suède avec cette affirmation qui a alimenté la polémique autour du documentaire.
C'est plutôt chez les femmes qui ont bénéficié de la vaccination que l'on voit la réaugmentation des cancers du col de l'utérus. Alors il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est que les femmes vaccinées pourraient penser que, étant protégées, elles vont moins profiter du système de surveillance. Une autre possibilité, c'est que le vaccin a pu éradiquer certains virus cancérigènes, mais la nature détestant le vide, ils ont été remplacés par d'autres virus que l'on a moins bien investigué et qui aurait pu déclencher, avec d'autres facteurs, le retour des cancers du col de l'utérus. Puis la troisième explication, c'est que ces jeunes femmes vaccinés étaient peut-être déjà infectés. Et là, on sait que Merck, qui est l'industriel qui commercialise le Gardasil, rapporte que dans certains sous-groupes de jeunes femmes qui ont été vaccinées, mais qui étaient déjà infectées, et ils le documentent, alors on a non pas une diminution du risque de lésions précancéreuses, mais au contraire une augmentation du risque. C'est près de 45% d'augmentation du risque.
Voilà, Didier Trenot. Alors d'abord sur cette affirmation, une réaugmentation des cas de cancer chez les femmes vaccinées, c'est vérifié, c'est...
Alors, c'est pas exactement ça que montrait le documentaire. Ce que montrait le documentaire au travers de courbes assez élaborées, c'était que dans des pays où la vaccination finalement était assez répandue, on avait noté au cours des dernières années une augmentation de la fréquence du cancer cervical. Ça n'empêche pas que quand on a examiné l'impact de la vaccination sur la venue de cancer, la survenue de cancer, on en voit dans des populations assez grandes une diminution de l'ordre de 90%. Donc en fait, là, on mélange deux choses. Il n'est pas dit le vaccin augmente la fréquence du cancer. Des questions sont soulevées pour expliquer ces chiffres qu'on a constatés, notamment en Suède. L'intervenant propose trois explications. Il doit y avoir des réponses à ces trois explications. Par exemple, est-ce que ces cancers surviennent chez des personnes qui étaient infectées avant d'avoir été vaccinées? Ce qui est assez vraisemblable. Le vaccin ne va pas permettre d'éradiquer une maladie qui est déjà installée. Si le virus a déjà proliféré dans les cellules, a déjà induit certaines cellules à présenter des lésions précancéreuses, les premières mutations qui vont leur permettre à un moment donné de pousser sans frein, le vaccin ne va pas faire régresser ce phénomène. Donc de nouveau, le documentaire donne trois voies dont on aurait aimé qu'il y en ait un suivi, que des réponses soient apportées à ces trois possibilités. Et ce n'est pas fait.
Comme vous dites, c'est un style, un doute, mais voilà.
On le lit en première lecture, on dit « Ah non, de bleu, on se fait vacciner, on va attraper le cancer ».
C'est ça.
Il y a un autre extrait aussi, on ne l'entendait pas ici d'une interview, mais toujours sur ce sujet-là, où l'intervenante disait « On ne sait pas encore aujourd'hui si le vaccin a un effet sur le cancer, s'il fonctionne ». C'était une interview d'archive, ce n'est pas précisé dans le documentaire. Et ça a évolué entre-temps.
Ah ben absolument, il y a une décontextualisation non seulement dans l'espace, mais dans le temps. L'intervenante avait fait ce commentaire en 2012, je crois, ou quelque chose comme ça. Une époque où on n'avait pas encore un recul colossal par rapport à la vaccination. La même personne a fait de nouveau des commentaires quelques années plus tard en disant « ça a l'air d'avoir un effet » et a refait des commentaires en quelques années plus tard en disant « ah ben effectivement, le vaccin diminuait la fréquence du cancer ». Donc c'est pas d'une honnêteté très limpide que de citer une personne comme si elle avait fait parler hier, alors qu'elle avait parlé il y a 8 ans, et depuis, c'était dédite de ses premières affirmations, qui à l'époque faisaient du sens, parce qu'on attendait de voir, il semblait que, mais on n'était pas complètement sûr.
Autre aspect critique de la vaccination abordé dans ce documentaire d'Arte, les tests précliniques, donc les tests qu'on fait subir au vaccin avant de les administrer aux patientes et aux patients. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait, on entend Romain Guérardi, il est neurologue, il précise d'ailleurs être pro-vaccin, mais il n'est pas satisfait de l'évaluation des effets indésirables.
Premièrement, un vaccin ne fait pas l'objet des études précliniques habituellement obligatoires pour les autres médicaments. Notamment, on ne le teste pas de façon très habituelle, ça n'est pas fait, pour des tests d'induction de cancer, d'induction de mutagénèse, c'est-à-dire est-ce que ça peut avoir un effet sur l'ADN des patients, sur la fertilité des patients. Donc il y a un ensemble de tests précliniques qui sont normalement menés pour tous les médicaments sur des modèles cellulaires et sur des petits animaux. Ceci n'est à peu près jamais fait pour les vaccins. Alors, c'est pas qu'il y ait des choses à cacher, Je pense pas que ça soit parce qu'on a trouvé d'affreux effets qu'on cherche à cacher. C'est que simplement, ça met du temps, ça coûte cher et que l'industrie vaccinale a utilisé tous ses réseaux pour se dédouaner de cette obligation qui lui pesait beaucoup en termes de durée, de coût, etc.
Didier Trenon, un vaccin n'est pas testé comme un médicament, par exemple avec un placebo en parallèle. Finalement, les effets indésirables ne sont pas suffisamment explorés.
Non, de nouveau, c'est une constatation ou une affirmation qui, dans sa généralisation, est fausse. Les vaccins sont testés de manière préclinique. Peut-être pas parfois dans des situations d'urgence de santé avec durant un temps qui est aussi grand qu'on aimerait pouvoir le faire.
On pense au Covid notamment.
On pense au Covid, si on veut voir un effet potentiellement tumorigène dans un primate, il faudrait attendre des années avant de le voir se manifester. Et à un moment donné, l'option est prise de ne pas aller jusque-là parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ce genre de contexte. Donc il y a une sorte de pesée d'intérêt, pesée de risque qui fait décider que les tests qui ont été pratiqués sont suffisants parce qu'ils ont examiné les paramètres classiques qu'on pourrait avoir avec, après vaccination, réaction allergique, réaction inflammatoire, l'immunité partant dans tous les sens. Il y a beaucoup de vaccins aussi qu'on administre aujourd'hui qui sont de vieux vaccins, qui existent pas depuis la nuit des temps, mais depuis plusieurs décennies, moment auquel finalement peut-être les études précliniques n'étaient pas aussi sophistiquées qu'elles peuvent l'être aujourd'hui, non pas par négligence, mais parce que les techniques n'existaient pas. Et puis finalement, de manière empirique, ces vaccins se sont installés comme étant raisonnablement efficaces, sans grand effet secondaire. On n'est pas revenu sur ces études, on ne les a pas remis en question. Et il est parfois difficile d'ailleurs de venir avec un nouveau vaccin qui serait peut-être un tout petit peu mieux que le précédent, parce qu'en fait le précédent n'est pas si mal, et les études qui seraient nécessaires à supplanter le précédent avec un vaccin seraient tellement colossales, parce qu'il faudrait avoir des populations gigantesques pour pouvoir comparer les deux, de gens qu'on vaccine avec l'un, qu'on vaccine avec l'autre, contre une maladie infectieuse qui peut-être n'est plus très prévalente, donc il faudrait attendre une éternité pour que des gens soient exposés, qui ont été vaccinés par un mode ou par l'autre, qui font que la dynamique de remplacement des vaccins n'est pas aussi grande que ce qu'on pourrait l'imaginer. Les seules circonstances où un vaccin peut s'imposer avec plus de rapidité, c'est s'il y a une maladie nouvelle ou une invention qui fait qu'on peut se protéger contre une maladie contre laquelle on ne savait pas se protéger avant. Mais si c'est une maladie nouvelle, souvent il y a une situation d'urgence qui s'impose, qui fait qu'on doit s'assurer que les plus grands risques sont couverts et pas faire des études aussi longues peut-être qu'on pourrait l'imaginer dans d'autres cas.
Dans ce parallèle qu'il y a fait avec le médicament, le vaccin, il y a la question du dosage aussi. Le vaccin, on peut pas le doser de manière personnalisée. On sait par exemple que les femmes auraient peut-être besoin de doses plus faibles. Est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer ça, comme le suggère le reportage ?
Le reportage va plus loin, puisqu'il suggère qu'on pourrait, sur la base de la détermination du groupe, ce qu'on appelle HLA, dont tout un chacun est porteur, faire des vaccins qui soient complètement personnalisés. Ça, c'est un petit peu de la science-fiction, parce qu'on ne sait pas le faire, on ne sait pas encore le faire pour quoi que ce soit, ou presque. Donc, dire que c'est possible et qu'on ne le fait pas parce qu'on est négligent, c'est un abus de langage. Techniquement, on ne saurait pas le faire, et puis sur un plan économique, ce serait totalement ingérable. Donc, qu'on s'aperçoive, peut-être avec des études qui soient bien contrôlées, que à l'avenir, on puisse ajuster les doses, par exemple femmes versus hommes, c'est possible, mais il faudrait être sûr que ce faisant, on ne fait pas tout d'un coup passer 20% des femmes en dessous de la dose nécessaire à une bonne immunisation, alors même que le fait de recevoir une dose qui serait peut-être légèrement au-dessus de cela ne leur ferait pas encourir d'effets secondaires. Donc parfois, le mieux est l'ennemi du bien.
Il y a beaucoup de points à aborder, on le disait, parce que c'est un long documentaire de quasiment une heure et demie. On n'aura pas l'occasion de tous les détailler, puisqu'on en arrive à la fin de cette séquence avec vous, Didier Trenon. Il est aussi question dans ce documentaire de la composition des vaccins, donc les fameux adjuvants avec la présence des sels d'aluminium. Autre thème abordé, les maladies auto-immunes, les allergies qui augmenteraient. Le documentaire qui pose la question de la responsabilité de la vaccination de masse, une fois de plus. Il y a aussi la pression, évidemment, qu'on peut imaginer existant de la part de la pharma pour, dans le fond, vacciner le plus largement possible pour tout un tas de maladies, parce que c'est aussi un business, hein, il faut le dire, ça c'est aussi évoqué dans le documentaire. Et à la toute fin, il y a dans le fond ce message de se dire, mais il y a des tensions tellement fortes hein, entre les pro-vaccins et les anti-vaccins. Est-ce qu'aujourd'hui, le documentaire finit là-dessus, est-ce que vous pensez qu'on va réussir finalement quand même à entrer dans un dialogue et essayer d'oser quand même accueillir aussi aussi les questions des antivax qui souvent sont mises de côté, mises à banc, j'allais dire, et pour pouvoir voilà ensemble dialoguer.
D'abord. Mais je pense que évidemment qu'il faut le faire. Je suis pas sûr qu'il faille prendre toutes les questions de ce que vous appelez les antivax exactement pour ce qu'elles sont, mais je pense qu'il doit y avoir, comme pour tout, un dialogue scientifique, social, sur les priorités qu'on établit, sur les choix que l'on fait, sur les risques que l'on accepte, sur ce qu'est la meilleure approche scientifique, médicale pour atteindre tel ou tel but. Une remise en question parfois des méthodes que l'on a, et ça fait partie de ce qu'est la science, de ce qu'est la médecine, de le faire constamment, sans émotion, sans parti pris, mais parfois avec des décisions qui sont des choix de risques acceptables, comme on le fait tous les jours en traversant la rue devant chez soi pour aller de l'autre côté.
Merci beaucoup Didier Tronot. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de virologie de l'EPFL. On évoquait donc avec vous ce documentaire d'Arte, également diffusé sur la RTS, qui a créé la polémique, donc des vaccins et des hommes. Toute la lumière sur les faits énoncés, on n'a pas pu la faire, on l'a dit, mais on a essayé d'ouvrir un certain nombre de fenêtres et c'était utile de le faire. Merci beaucoup.
CQFD à 10h sur la première.